Souvent le refrain est le centre du chant qu'on répète et puis qu'on apprécie et puis qu'on aime. Par exemple, ce matin, un chant que j'aime bien, le Christ est roi. J'aime bien le refrain. Et il y a des refrains qui sont un peu plus tristes, par exemple. Et c'est le cas des juges qui on revient souvent au malheureux refrain. et malgré ça, malgré le refrain qui est là, et on revient souvent à ce que le peuple d'Israël a fait, mais on a de quoi tirer, on a de quoi apprendre de cette expérience que le peuple d'Israël a vécue, de comment est-ce qu'ils ont marché avec Dieu, et ces choses-là ne leur sont pas arrivées dans le passé, sans que ça nous concerne jusqu'au point où ce que on a à tirer profit de ces exemples-là et savoir comment est-ce que moi je peux éviter ces mêmes erreurs-là. On peut apprendre de nos erreurs, c'est une bonne chose. Je dis souvent cette phrase-là, on peut apprendre de nos erreurs, c'est une bonne chose. Puis c'est encore mieux que d'apprendre des erreurs des autres, parce qu'on s'évite bien des maux. Alors c'est l'occasion, à travers les Écritures, d'apprendre de l'erreur des autres, de voir comment est-ce que le peuple d'Israël a fait des erreurs et comment est-ce que nous, on veut les éviter. Alors, je vous invite, on est dans Juges 10, on avait fait la dernière fois avec un élan du peuple qui voulait un roi. On sentait le cœur du peuple qui voulait aller vers une monarchie. Et puis, en fait, ils ont choisi un roi, mais ça n'a pas duré longtemps. Et on voyait que Dieu devait être le roi, que c'était une théocratie, que Dieu devait être le roi. Et même si Dieu avait prévu qu'il y ait un roi à travers la tribu de Juda, le roi qui allait être là allait considérer lui-même que c'est Dieu qui devait être le roi. Et quand on lit des psaumes de David, ben on voit justement le cœur de David qui dit que c'est Dieu qui règne dans les cieux, c'est lui. Puis justement, ce soir, le juge qu'on va voir, je ne sais pas jusqu'où qu'on va se rendre, mais le juge en question, c'est-à-dire Jephté, va lui-même dire « c'est Dieu qui est le juge, c'est pas moi ». Alors, le cœur de ces hommes-là, de ces femmes-là, qui sont des motivateurs, des libérateurs pour Israël, reconnaissent la main de Dieu en toutes choses. Et c'est ce qu'on doit reconnaître nous-mêmes aussi. Comment briser le cycle du péché? Comment briser ce malheureux refrain-là qui revient? Est-ce que ce malheureux refrain-là revient dans nos propres vies? Est-ce qu'il y a un cycle de péché qui doit être brisé, qu'on doit avoir un terme? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir si Israël a tourné dans ce cycle-là? Et comment prendre exemple justement des temps passés pour éviter les mêmes erreurs? On va lire les 5 premiers versets pour regarder deux juges qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de détails. Les 5 premiers versets du chapitre 10. Après Abimélec, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Isaacar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans les montagnes d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui se leva Jaïr, le Galaadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 en nom et qui possédaient 30 villes, appelées encore aujourd'hui Bourg de Jaïr, et situées dans le pays de Galaad. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. On n'a pas nécessairement beaucoup de détails sur ces deux hommes-là qui ont été des libérateurs en Israël, mais ce que l'on comprend, c'est qu'Israël a eu besoin de libérateurs qui les a libérés de l'oppression des gens qui étaient là. Le peuple était en repos pendant que ces libérateurs-là étaient en place, comme ce qu'on avait déjà vu dans d'autres juges précédents. Et là, on arrive au verset 6, qui on arrive dans une portion des juges où on étire un petit peu plus le refrain que je disais tantôt de ce qui se passe avec Israël dans sa relation avec Dieu. Est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait me lire Juges 10, les versets 6 à 9? OK, Claude. Thank you. OK. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? La question est facile, hein? Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est quoi qu'ils ont fait? C'est quoi qui est mal aux yeux de l'Éternel? Se sont attachés à d'autres dieux, se sont tournés vers d'autres idoles. Ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu vivant, pour se tourner vers des idoles inertes et finalement abandonner Dieu. Et ça, c'est ce qui déplaisait à Dieu. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon, les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. C'est quoi le résultat que d'abandonner l'Éternel? Ça se manifeste comment? Le peuple abandonne l'Éternel, ça s'est manifesté de quelle façon dans leur marche avec lui? Qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils n'ont plus fait? Ouais. Ils ont arrêté de servir l'Éternel. Ils ont, comme on vient juste de dire, se sont tournés vers les idoles pour les servir. Et il y en a beaucoup, là. Tous les peuples qui sont près d'eux, autant qu'il y a de peuples et d'idoles, ils se tournent vers ces idoles-là. Et c'est intéressant de voir, comprenez ce que je veux dire, que la manifestation de l'abandon de l'Éternel, c'est d'arrêter de le servir. La fin du verset 6, c'est ce que ça dit. Ils ont commencé à servir d'autres dieux et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Ne se sont plus sentis concernés par l'Éternel, par Dieu, par le désir de le servir et leur détachement de l'Éternel s'est manifesté par l'attachement à d'autres dieux, mais aussi par arrêter de servir l'Éternel et commencer à s'éloigner. Le début du cycle recommence, c'est-à-dire que les enfants abandonnent l'Éternel, les enfants d'Israël abandonnent l'Éternel. Le début du cycle recommence, et ce cycle-là mène vers quoi quand la désobéissance commence? La désobéissance mène à quoi? À l'idolâtrie, mais la désobéissance mène à la défaite, mène à l'esclavage. C'est ce cycle-là qui commence à tourner. Regardez verset 7. « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. » Pourquoi est-ce qu'ils ont été opprimés? Pourquoi est-ce qu'il y avait des peuples qui les attaquaient? C'était à cause de leur désobéissance, à cause qu'ils ont désobéi. Et Dieu étant en colère de cet abandon-là, et à cause de cela, il les a amenés avec d'autres peuples pour qu'ils les oppriment. Verset 8, « Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là, et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens et en Galaad. » Ça se passe vraiment de l'autre côté du Jourdain. Si je me place face à vous, là, il y a le Jourdain, on est vraiment de l'autre côté du Jourdain, où il y a la tribu de Gad, il y a les Ammonites aussi. Ça se passe surtout là, et l'oppression des Ammonites allait même jusqu'à traverser le Jourdain dans la tribu qui était de l'autre côté, Éphraïm, Benjamin, et puis mais on se situe vraiment du côté est, du nord-est, bien, centre-est pour commencer, ça s'en va vers le nord un petit peu plus après, mais à l'est du Jourdain. Et le peuple d'Israël est opprimé à cause de l'abandon de la foi. Encore, ils abandonnent l'Éternel. OK, on a vu le début du cycle. Un volontaire qui voudrait lire les versets 10 à 14. OK, Mélissa. Autant de votre détresse. OK, c'est bon, on peut arrêter là. OK. Qu'est-ce qu'Israël a demandé à Dieu? Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? On vient de lire le verset 8. Pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël et de l'autre côté du Jourdain ont été finalement opprimés de par les Ammonites, les Amoréens. Qu'est-ce que le peuple demande à Dieu? Il demande d'être délivré. Qu'est-ce qu'ils crient à Dieu? Quel est leur cœur? Quel est leur état à cette situation-là? Ils ont reconnu qu'ils ont péché. Ils ont reconnu que la raison pour laquelle ils sont dans la souffrance, qu'ils sont dans l'esclavage, c'est à cause d'un choix de péché. Alors, verset 10, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » On reconnaît notre faute, on reconnaît qu'on a abandonné, on compte abandonner. Et là, ils demandent à Dieu, finalement, de les délivrer. Ils demandent à l'aide, ils demandent de l'aide à Dieu. Ils crièrent à l'Éternel en disant, « On a péché contre toi. » Puis c'est quoi que Dieu leur répond? Comment? Vous m'avez abandonné. Vous avez servi d'autres dieux. Vous m'avez abandonné en servant d'autres dieux. Puis qu'est-ce que Dieu dit aussi à son peuple? Je vous ai déjà délivré plusieurs fois. Puis quoi d'autre? Je vous délivrerai plus. Ouais. Ouais. Je vous délivrerai plus. Allez voir les autres dieux que vous avez servi pendant un temps. Pourquoi est-ce que Dieu répond comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu leur répond cette chose-là? C'était pas la première fois. Pourquoi est-ce que Dieu en est au point? Tantôt, je parlais d'un refrain qui revient. Puis, c'est comme si, en arrivant au chapitre 10, c'est comme si Dieu il dit, j'en ai assez de ce refrain-là. Et il dit, allez, verset 13, « Mais vous, vous m'avez abandonné, vous avez servi d'autres dieux, c'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez invoquer les dieux que vous avez choisis, qui vous délivrent au temps de votre détresse. » Pourquoi est-ce que Dieu lui leur parle comme ça? De balancer sur un bord ou l'autre. Oui, oui. Certainement que ça a dû leur faire réfléchir. On va regarder la réaction que ça a créée chez le peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça a créé en eux? Les versets 15 à 18. Quelqu'un qui veut lire? Paul? OK, merci. On a vu au début, à partir du verset 6, ce début de cycle-là qui recommence. Après ça, on a vu que l'Éternel semble prendre des distances face à son peuple. Mais le peuple réalise que même si Dieu se distance, même si Dieu est en train de dire « Allez invoquer vos idoles qui vous délivrent au temps de votre détresse », mais le peuple, qu'est-ce qu'il reconnaît en l'Éternel? Il est fidèle. Est-ce qu'ils sont allés vers les idoles finalement? Oui, ils ont reconnu que Dieu était puissant, que Dieu était vivant. Le peuple, ça faisait 18 ans qu'il était opprimé. Pensez-vous pas que pendant 18 ans, ils ont essayé de les invoquer, leurs idoles, pour être délivrés de ça? Ça se peut bien. Et là, ils réalisent finalement qu'on ne peut pas s'en sortir que par aucun autre chemin que de revenir à l'Éternel, que de revenir à la foi en Dieu, que de faire de Dieu notre priorité, de celui pour qui on va marcher, de celui pour qui on va vivre. Ils ont compris ça et le peuple, d'un commun accord, a compris que c'est uniquement Dieu qui est leur salut, qui peut leur donner la délivrance. Et ils se sont tournés vers Dieu, et malgré ça, malgré que Dieu leur a dit « Allez invoquer vos autres dieux », mais verset 15, les enfants d'Israël dirent à l'Éternel « Nous avons péché ». Comment était la repentance du peuple? Comment s'est manifestée d'une façon concrète la repentance du peuple? Ils ont détruit les idoles. Comment est-ce qu'on abandonne un péché? En le confessant, et en l'abandonnant aussi. Oui, oui. Alors, ils ont confessé leurs péchés, ils ont abandonné leurs péchés, ils ont fait tomber leurs idoles. Verset 15, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. » Le peuple a compris que Dieu pouvait les châtier et reconnaissait que la punition qu'ils pouvaient avoir était légitime. traite-nous comme il te plaira, mais abandonne-nous pas. Reste avec nous. Traite-nous comme il te plaira, seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. Et verset 16, ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Pourquoi est-ce que Dieu a été touché des maux d'Israël? Je crois que c'est à cause de leur repentance qui était vraie, qui n'était pas juste du bout des lèvres, mais qui était aussi en action, qui était une repentance en action, qui était une confession et qui était aussi un retour de « on va te servir Dieu avec tout notre être, on va revenir à toi ». Et Dieu a été touché par ça. Puis, les versets 16, 17 et 18, sans les relire, le peuple, la tribu de Gad, les gens de Galaad ont commencé à se consulter pour voir qui va devenir notre chef. Qui on a besoin de se former une armée et là on va monter contre nos ennemis. Quelques applications avant qu'on aille un petit peu plus loin au chapitre 11. Première des choses, on ne se moque pas de Dieu. Dieu est miséricordieux, Dieu est gracieux, et en même temps, on ne se moque pas de Dieu. C'est une expression qui revient régulièrement dans les Écritures, qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Le châtiment suit la désobéissance. Le châtiment suit la désobéissance. Dieu, ça tombe bien, on parlait justement du rôle d'un papa ce matin, de comment est-ce que on a nous-mêmes sur la terre à avoir ce rôle-là de papa. Et Dieu lui-même est un papa envers nous. Quand on est ses enfants, Dieu est un papa et il prend soin de nous comme un père et il veut notre bien. J'aimerais que, gardant un doigt dans Juge, qu'on tourne dans Hébreux 12, s'il vous plaît. Les gens du peuple pouvaient avoir tendance à se décourager, justement, peut-être de l'oppression, des châtiments que Dieu leur donnait, des peuples qui venaient les prendre en esclavage, et ils devaient en venir comme le peuple qu'on vient de lire 18 ans après, que c'est uniquement Dieu, l'Éternel, qui va nous délivrer de ce qui se passe présentement. Et le peuple en était un point de cœur de dire, traite-nous comme on le mérite. Fais de nous comme ce qu'on mérite, parce que c'est uniquement à toi qu'on veut s'attacher. C'est à toi qu'on veut revenir. Et mais le peuple, dans l'histoire du temps, et ce même jusque dans la Nouvelle Alliance, le peuple avait tendance à être découragé par le châtiment que Dieu pouvait leur donner. Et ça pourrait être vrai aussi pour nous. On va lire à partir du chapitre 12, les versets 5 à 11. Un volontaire qui veut lire ça? OK, Richard. OK. Le châtiment est donné à qui? Aux enfants. Il est donné aux fils. Et le châtiment, il est donné pourquoi? Quelle raison motive le châtiment? L'amour. L'amour d'un père envers son enfant. L'amour de Dieu envers ses enfants. Et si Dieu a châtié son peuple, c'est parce qu'il l'aimait. Il a choisi de l'aimer. Si Dieu nous châtie, c'est parce qu'il nous aime. Et celui que Dieu ne châtie pas, qu'est-ce que ça révèle? Faut qu'il se pose des questions. C'est probablement parce qu'il n'est pas un fils. C'est peut-être probablement parce qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Mais Dieu donne le châtiment comme un papa va châtier son enfant. Dieu va châtier son enfant. Et mon fils, verset 5, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. On ne se moque pas de Dieu. Le châtiment suit la désobéissance, mais si Dieu le fait, c'est parce qu'il nous aime et c'est pour nous aider à marcher droitement avec lui. Et une question que je voulais vous poser en revenant dans Juges 10, comment briser le cycle du péché? Quel conseil donneriez-vous à un enfant de Dieu qui veut briser un cycle de péché dans sa vie? Quel conseil donneriez-vous? Qu'est-ce qu'il doit faire, Richard? Reconnaître le péché? Oui. 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 De le reconnaître, de s'en détourner? Oui, Mme Walker? Oui. Oui. Renouveler sa reconsécration, sa consécration, justement en revenant à servir l'Éternel et en regardant qui il est. Naomi, après ça, il y avait Kathleen, après ça, Jacinthe. Oui. Oui. Ouais. De reconnaître la nécessité de l'intervention de Dieu dans nos vies. Il y avait Kathleen, après ça, Jacinthe, puis je pense Claude aussi. Oui. Reconnaître dans quelles circonstances ce péché-là revient et de chercher à l'éviter et à le prévenir aussi. Oui, Jacinthe. Oui. Je serai ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Absolument. Claude? Ouais. Ouais. Ouais, absolument. De déjà reconnaître ce cycle-là. OK, oui, Danny? C'est ça. Ouais. Ouais. Et ça rejoint ce principe-là qui est absolument une vérité, qui rejoint cette vérité-là de justement, pour rejoindre le commentaire aussi de Claude, que le peuple choisit d'abandonner l'Éternel pour aller vers une idole. Et c'est la même chose d'abandonner l'idole pour de revenir à l'Éternel, pour revenir à l'Éternel. Et c'est la même chose de choisir. Quand on choisit le bien, on rejette le mal. Et si on a choisi le mal, c'est parce qu'on a décidé de tasser pour un instant le bien. J'ai apporté juste quelques déclarations. Comment briser le cycle du péché et ce que vous avez dit et reflète bien ce que les Écritures nous donnent aussi. Et puis, basé sur Romains 6, 7, 8, comprendre notre union avec Christ, considérer notre relation avec Dieu et le péché. Si je suis sauvé, je vais comprendre aussi la gravité du péché. Dire non aux convoitises, consacrer notre être et ses membres comme des armes de justice. finalement, de choisir le bien, de faire le bien, plutôt que de juste rejeter le mal puis se croiser les bras. Obéir de cœur à la parole, et ça commence par un culte personnel, par la mémorisation. Servir Dieu par l'Esprit, être conduit par l'Esprit aussi, avoir cette puissance-là qui est en nous, qui nous accompagne pour avoir la victoire sur le péché. Il y a des cycles qui s'est produit au temps des juges avec Israël et qui s'est continué longtemps et qui, d'une façon personnelle, pourrait nous représenter aussi, si on a un péché dans nos vies, qu'on ne veut pas de cycle de péché comme ça, où est-ce qu'on choisit la désobéissance, finalement on abandonne, on est loin de Dieu pendant un temps, on vit beaucoup d'épreuves, d'oppressions, de châtiments même de la part de Dieu, puis là on comprend ça, puis là on revient à Dieu, puis là on vit un temps avec Dieu où est-ce qu'on est de retour, mais on veut pas faire ce cycle-là, on veut marcher avec Dieu, avec fidélité, et ça jusqu'à notre mort. Est-ce que Dieu se repent? Dieu se repent-il? Pourquoi? Et en quelles circonstances? Dieu a dit, avec Jonas, il s'est repenti. Dieu avait dit, je vous délivrerai pas. Je vous délivrerai pas de leurs mains. Il dit, allez invoquer les autres dieux, puis qu'ils vous délivrent eux autres de votre détresse. Dieu, est-ce qu'il se repent? Oui, on peut dire oui. Je pense qu'on peut comprendre, on comprend bien que oui, Dieu est mobile. Oui. Il fut touché. Ouais. Ouais. Et on peut incliner son cœur. Dieu a été touché. Et en quelles circonstances? C'est surtout ça la question, parce qu'on comprend bien que oui, Dieu peut se repentir de différentes choses, de jugement, par exemple. Et en quelles circonstances? Mais on a vu que, à cause de la repentance que le peuple a eue, d'une vraie repentance, Dieu a été touché par les actions du peuple. Dieu voit les cœurs. Tournez avant qu'on aille peut-être un peu plus loin dans Juges 11, là, dans Ézéchiel. Ézéchiel 28. Dieu, dans ses décrets, ne changera pas. Dieu, dans sa personne, il ne change pas. Il est immuable. Dieu, dans ses jugements, dans ses déclarations qu'il fait, par exemple, suite à un péché, il peut se repentir. Il peut changer d'idée quand il voit que l'homme, lui, s'est repenti. Ben, il peut changer ce qu'il a déclaré. Versets 23 à 24 du chapitre 28. Quelqu'un qui voudrait lire ça? Ézéchiel 28, 23 à 24. Oh, attendez un instant. Je pense que je n'ai pas noté le bon verset. Attendez juste un instant. C'est peut-être... Excusez-moi, j'ai... OK, c'est 18. Ézéchiel 18, 23, 24. OK, vas-y, Frédéric. Recommence la phrase, s'il te plaît. Lis, s'il te plaît, aussi versets 26 à 32. Thank you. OK. C'est quoi la volonté de Dieu à travers ce texte-là? Quelle est la volonté de Dieu, autant pour le méchant que pour le juste? C'est la repentance, c'est quoi? Qu'ils se convertissent, qu'ils changent leur manière de vivre, que celui qui est juste demeure dans la justice, et que celui qui est méchant, est-ce que c'est la volonté de Dieu qui meurt? Non, mais c'est inévitable que ça va se passer comme ça s'il ne change pas sa voie. Le juste qui décide de changer sa voie puis qui s'en va pour pratiquer l'injustice, qu'est-ce qui se produit? Oui, il y a une conséquence reliée à ça. Que le juste qui avait abandonné sa voie, ben il y a des conséquences reliées à ça. Et celui qui est injuste, celui qui est méchant, puis qui décide de confesser, qui décide de demander pardon, qui décide de se convertir, ben il va vivre. Verset 23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? » dit le Seigneur l'Éternel, « N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » C'est ça que Dieu désire. C'est ça que Dieu désirait de son peuple, qu'il change ses voies, qu'il abandonne son péché et qu'il vive. La volonté de Dieu pour chacune de nos vies, c'est qu'on vive dans la liberté, que l'on vive dans cette justice-là qu'il a prévue pour nous et puis qu'on puisse justement marcher avec fidélité. Dieu veut pas que l'on meure. Dieu ne veut pas même que le méchant meure, mais c'est ce vers quoi il s'en va s'il ne change pas ses voies. Alors oui, Dieu peut se repentir comme ce qu'il avait dit au peuple. Quand il a vu la repentance du peuple, il a accepté leurs actions comme étant une repentance vraie, comme une repentance qui manifestait un désir que de revenir à lui. Et il s'est repenti de dire « Je ne vous délivrerai pas ». Il a été touché dans son cœur et Dieu l'a délivré le peuple. OK. Je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. On n'a pas vu notre prochain juge qui est Jephté. Le prochain soir, on lira ce qui me restait était le chapitre 11 jusqu'au verset 7 du chapitre 12, à moins que vous ayez vraiment les yeux grands ouverts encore, mais j'en vois plusieurs bâillés. Fait qu'on va arrêter là. Mais juste qu'on peut prendre quelques questions, commentaires pour terminer là. Madame Walker. Ouais. 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 Absolument. Ouais, absolument. Comme vous avez dit, l'idolâtrie, ce qui détourne notre cœur de Dieu. Et comme on voyait tantôt, le peuple qui abandonnait Dieu, qui se tournait vers des idoles, ça se manifestait par l'arrêt de servir l'Éternel. C'est ce désir de cœur-là que de vouloir marcher pour lui, de vouloir le servir. Et est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui m'empêchent de servir Dieu? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui détournent mon attention, qui détournent mon intérêt, qui diminue ma volonté que de vouloir continuer de servir Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclassé Dieu dans avec mes priorités? C'est-à-dire que Dieu est descendu dans des priorités de ma vie. Que Dieu demeure la priorité de nos vies, c'est ce qui fait en sorte que ça va manifester notre désir de suivre Dieu pleinement d'un cœur sincère et de lutter contre ces choses-là qui nous détournent de notre attention pour le vouloir servir. Oui, j'en sais. Ouais. Ouais. Ça commence par les pensées, absolument. Mais c'est effectivement difficile. OK. On va terminer par un mot de prière. Que Dieu scelle cette parole-là dans nos cœurs, cet exemple-là pour justement apprendre de leurs erreurs, pour ne pas reproduire les mêmes. Seigneur, on vient devant toi. encore pour te dire merci. Merci pour ta parole qui est chère, Seigneur, à nos vies. On veut la comprendre, on veut la lire, on veut la méditer, Seigneur, parce qu'on croit que c'est toi qui nous parles, que tu illumines, Seigneur, nos pensées à travers elle. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses, justement, chacun d'entre nous, avec ta parole, que l'on puisse comprendre les choses qui sont à changer dans nos vies. Pour chacun d'entre nous, que ce soit des choses qu'on a abandonnées, des choses que tu as à nous faire réaliser, Seigneur, que tranquillement, pas vite, peut-être qu'on a privilégié quelque chose avant toi. Et que tu puisses transformer nos vies, Seigneur, qu'on puisse être conscient du péché que l'on peut avoir, Seigneur. On te demande ton aide en même temps, ta puissance, ton intervention pour briser quelques cycles que l'on pourrait avoir dans nos vies qui concernent le péché. On ne veut pas vivre, Seigneur, constamment cette roue-là qui tourne et de revenir à un malheureux refrain, mais on veut vivre dans la victoire, dans la liberté à chaque jour de notre vie avec toi. Et garde-nous, Seigneur, de ces faiblesses qui nous guettent facilement. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen.